Revenons sur cette agression terrifiante du mari de Nancy Pelosi. On approche peu à peu de ce qu'on appelle les midterms, les élections de mi-mandat qui sont extrêmement importantes et qui, d'une certaine manière, explique l'attitude de Joe Biden envers l'Ukraine et notamment le fait de fournir autant d'armes et autant d'argent. Est-ce qu'on est passé dans une violence inouïe? Est-ce qu'on est passé, on a passé un cap, un stade où finalement la lutte pour le pouvoir, ou en tout cas la volonté d'installer une majorité ou de la poursuivre, a franchi un cap?
Oui, depuis le Capitole, depuis l'invasion du Capitole, finalement, on a passé un cap aux États-Unis en tout cas, et qui est inquiétant pour toutes les démocraties, hein, et qui nous inquiète. Là, cette agression complètement, inouïe d'un homme qui arrive à s'introduire quand même.
Elle doit dans être un peu gardée quand même, cette maison de Nancy Pelosi, qui est la troisième dans le protocole américain.
Moi, j'ai beaucoup d'estime pour Nancy Pelosi, et ça m'a touchée parce que j'ai eu l'occasion et la chance de la rencontrer pendant la dernière mandature dans ma circonscription, il y a un cimetière américain. C'est une femme remarquable.
Vous voulez reparler de ce moment où elle déchire le discours de Donald Trump devant toutes les caméras du monde entier?
Je n'ai pas eu cet échange-là, mais en tout cas, j'ai eu...
Je serais quand même très curieux de savoir ce qui lui est passé.
C'est une femme de grande conviction et de fort caractère et de grande classe. Et politiquement, c'est touchant. Elle était à Washington. Enfin, je veux dire, là, on a des complotistes qui sont quand même agités, parce que visiblement, il a été très vite arrêté, heureusement. Mais c'est quand même un pédigré de tout ce qui peut se faire dans la matière aux États-Unis. Et ça prospère, malheureusement. Ces personnes qui agissent comme ça, de façon ultra-violente, prospèrent. Le mari de Nancy Pelosi a quand même dû être opéré.
Oui, oui.
Il va bien, mais enfin, je lui dis...
Fracture au crâne. Hein,
Très touchant. Et puis, au-delà de ça, je vous dis, nos démocraties, elles sont bousculées depuis l'invasion du Capitole, et on voit les effets encore maintenant.
Oui, et alors William Tesh, j'ai presque envie de faire cette comparaison hasardeuse, hein, hasardeuse, je mets le conditionnel. C'est vrai qu'en France, on donne une baffe au président, c'est le dernier, fait marquant qu'on a pu voir avec cet homme qui était passionné de Moyen-Âge, etc., qui tout d'un coup a donné une baffe à Emmanuel Macron, qui a d'ailleurs été condamné. Là, aux États-Unis, quand même, on monte d'un cran, on s'introduit chez Nancy Pelosi et on frappe au marteau.
Ouais, moi, je ferai un lien entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en Europe. Je pense que c'est toute la société occidentale qui est malade. C'est-à-dire qu'on pouvait parler de l'agression du mari de Nancy Pelosi, mais on ne peut pas oublier que lorsqu'Emmanuel Macron, lors de la crise des Gilets jaunes, est venu en puits en volet, il y avait des personnes qui courait derrière sa voiture pour essayer de l'arrêter. Mm. Donc on a essayé de viser des officiels de l'État, ce qui n'arrivait très rarement, enfin, hormis complot militaire et coup d'État. Mm. Mais il n'y avait pas d'agression physique envers le chef de l'État.
Et puis isolé, comme Maxime Brunery sur les Champs-Élysées avec son 22 long riche, avec Chirac.
On peut faire également une comparaison sur ce qui se passe aux États-Unis. C'est peut-être plus violent et plus radical, notamment parce qu'ils ont le port d'armes qui est autorisé. Mais de toute façon, l'intention est la même et la base est la même. C'est-à-dire que vous avez la même base, une partie de complotistes d'extrême gauche, des complotistes d'extrême droite, vous avez les mêmes en France. Vous avez des mêmes personnes qui affaiblissent la démocratie et qui préfèrent des pays étrangers à leur propre pays aussi. C'est le parallèle qu'on a vu avec l'invasion en Ukraine, avec des bouts pro-russes des deux côtés du champ politique, des deux extrêmes. Vous avez des parallèles sur les complots anti-vaccins. Vous avez une montée du complotisme dans toutes les sociétés occidentales.
Mais donc, on a une société mondiale qui est malade.
Société mondiale qui est malade, et dans la mesure où les personnes, en fait, commence à douter du modèle démocratique, et c'est-à-dire qu'on assiste petit à petit à ce que disait Francis Fukuyama, et en sens inverse, c'est la fin de la fin de l'histoire. C'est-à-dire que Francis Fukuyama disait qu'à la chute du mur, il est revenu dessus, mais il disait que la chute du mur de Berlin devait conduire inexorablement à la victoire de la démocratie libérale et du capitalisme de marché mondialisé. Finalement, petit à petit, on est en train d'arriver à là, et je pense qu'on a un point de tournant sur est-ce que ça va être le modèle autoritaire dit chinois russe qui va gagner, ou est-ce que c'est le modèle de démocratie libérale anglo-saxon à la française qui va gagner.
Il nous reste peu de temps, mais est-ce qu'il n'y a pas un corollaire avec ce qui se passe au Brésil? On a deux présidents totalement opposé. Quoi.
Mais, mais j'ai oublié de parler de la question des mid-terms. Je pense qu'on assiste à une vague qui est républicaine. On va sortir un document en fin de semaine. Il y a une poussée de la droite la plus radicale, très forte en France. On l'a vécu lors des élections présidentielles. On l'a vu lors des élections législatives. C'est la même chose qui se passe dans toutes les sociétés occidentales démocratiques, dans la mesure où ça fait lien avec le sujet suivant. C'est que vous avez un conflit qui est très fort entre ceux qui sont plutôt dans le champ des partis de gouvernement classiques et ceux qui sont plutôt pour un retour de pouvoir exécutif fort pour lutter et pour lutter contre ce qu'ils appellent l'affaiblissement de l'Occident, et c'est le cri du peuple qui ne veut pas mourir.
Ça vous inspire quoi, Isabelle Florenne? Lula, Bolsonaro
je lisais un article très
qu'on
intéressant.
Qu'on aille rechercher Lula, c'est-à-dire
c'est
qu'en gros, il n'y a
personne civile,
d'autre.
Bon, ouais. Un journaliste qui parlait de guerre civile politique. On assiste à une vraie fracture, des vraies radicalisations politiques c'est qui remettent finalement en cause la démocratie, parce que on ne sait pas qui sortira, mais clairement, si Bolsonaro, visiblement, en tout cas, est un peu en retard, c'est le modèle Trump, c'est-à-dire la non-acceptation de la victoire, la non-acceptation du jeu démocratique, et après... finalement, ce qu'on a vu aux États-Unis, mais on peut faire le parallèle avec ce qui risque de se passer au Brésil, c'est une remise en cause permanente des fondements démocratiques. Et ça, forcément, quand ça se passe dans des régimes de cette ampleur, c'est-à-dire en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, et ben, ça a un impact, vous le disiez, hein, sur les démocraties européennes. Et c'est là-dessus que le président de la République, je crois, doit agir avec ses homologues européens sur une cohésion et sur réaffirmation de nos valeurs et de notre stabilité démocratique.
Je pense que le sujet essentiel, et ça fait un lien avec ce qu'on avait évoqué précédemment, c'est ce qu'avait dit Nicolas Sarkozy, c'est quelle attitude on mène. Est-ce que les partis de gouvernement répondent aux préoccupations d'un peuple qui se radicalise de plus en plus, ou est-ce qu'on combat les phénomènes de radicalisation? Et c'est toutes ces stratégies auxquelles les partis de gouvernement classiques
vous
font
face. Vous avez 4 heures pour le sujet. Merci beaucoup William T. Et merci à Isabelle Florenne. Juste après le journal de 19h, Julia De Funès pour son livre Le siècle des égarés. Et dans Panorama à 19h30, la recherche santé en danger. À tout de suite.